Vous écoutez France Musique.
Merci Françoise de Georges.
Chemin rêvant, Olivier Naoum.
Bienvenue dans Chemin rêvant qui s'ouvre ce soir aux côtés d'Edith Skob. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre pour ce partage nocturne. Vous êtes actuellement à l'affiche du Théâtre de Poche à Montparnasse avec Inventaire au pluriel, pièce de Philippe Mignana, aux côtés de vos camarades de jeu, Judith Magre, Florence Giorghetti, et puis la mise en scène est de Robert Cantarella. Et quand on voit ces trois femmes, puisque dans cette pièce, il y a trois femmes sur scène, trois femmes qui vont raconter leur destin à l'aide d'un objet fétiche. On se dit que vous avez dû particulièrement penser à la musique des textes. Parce que ce qui est fascinant, c'est plutôt un texte parlé qui préside aux destinées de ces trois femmes sur scène. Et pourtant, très vite, on a l'impression presque d'assister à une sorte d'opéra parlé qui ne déplairait pas à M. Apergus, que vous connaissez si bien, avec qui vous partagez votre vie. Donc, est-ce que c'est la musicalité des textes a joué un rôle particulier ? Puisqu'en plus, vous, votre personnage, a un rythme et un débit, une façon de raconter son destin dans la belle ville de Bagnolet, avec un rythme particulier. Donc, est-ce que cette pièce est avant tout, paradoxalement, même si on est dans du parler, une aventure musicale, Edith Skob ?
D'une certaine façon, oui. Philippe Mignana, en fait, est parti d'interview. Il a interviewé trois femmes en pensant aux actrices qu'il interpréterait, parce qu'il a écrit cette pièce, en fait, pour nous, pour Judith Magre, pour Florence Giorghetti et moi. Et le personnage que je joue, par exemple, c'est moi qui l'ai présenté à Philippe Mignana, parce qu'à l'époque, je travaillais à Bagnolet, et c'était une femme de Bagnolet qui s'appelait Jacqueline Muraté, que j'aimais énormément. Et je lui ai dit que ça m'amuserait de travailler sur son personnage. Et donc, il l'a interviewé. Puis après, il l'a réécrit. Et c'est en fait la réécriture de Philippe qui est extrêmement musicale, parce qu'il part donc de ce qui est donné, et après il joue avec les mots, il passe d'une chose à l'autre, et encore plus fortement quand on l'a... Parce que c'est une pièce qu'on a créée il y a 26 ans.
Donc c'était en 1987
en 86-87, je crois. On l'a joué au Théâtre de la Bastille, au Paris Villette, puis on a fait une tournée énorme en Europe, en France, tout ça. Et à l'époque, et Robert Cantarella et Philippe Mignana, ils voulaient que ce soit, ils voulaient qu'il n'y ait aucune, très peu d'interprétation, pas de psychologie. Ils voulaient vraiment que ce soit une musique qui court, qui court, qui court. Et effectivement, je crois qu'on a un peu chacune notre musique par rapport à ça.
Et la musique des mots, évidemment, elle résonne quand on est sur scène, mais est-ce que le fait de la reprendre aujourd'hui, cette pièce, en ayant parcouru d'autres personnages, en ayant déclamé des poèmes seuls sur scène, en ayant rencontré d'autres réalisateurs, est-ce que vous pensez que ça a changé votre perception du texte ?
Peut-être un petit peu, parce que j'ai l'impression que chacune de nous, on l'a pris un tout petit peu plus à notre compte, en l'interprétant un petit peu à notre façon et en désobéissant un tout petit peu à une musique qui pouvait devenir quand même assez formelle et où le public pouvait un peu se perdre là-dedans. Et chacune de nous trois, je crois qu'on a, on a fait un petit peu le même travail, de le prendre plus à notre compte, oui.
Parce que dans cette pièce inventaire, il y a trois femmes, trois actrices. Vous qui racontez votre vie grâce à un objet fétiche apporté sur ce qui pourrait ressembler à un plateau de télévision. Mais vous ne parlez pas tout en même temps. Chacune a la parole à un moment donné. Donc on se demande finalement, en vous regardant sur scène, quelle est la place, quel regard vous portez sur le silence ?
Le silence, je pense que ce n'est pas une chose forte dans le spectacle, parce qu'il y a, c'est un spectacle qui s'appelle le marathon de la parole, hein, et il y a une règle du jeu, c'est de dire le plus de choses possible dans un minimum de temps. Donc vraiment, le silence n'a pas lieu d'être. Il y a vraiment des spectacles, des personnages où on peut parler, et après le silence résonne énormément, alors que là, c'est une espèce de cavalcade. Et une cavalcade aussi entrecoupée, puisque l'écriture de départ, c'est trois monologues. Et ensuite, au niveau de la réalisation, il y a eu cette idée de jeu télévisé qui s'est développée, donc avec un présentateur. Et ces trois monologues ont été coupés. Donc, sont constamment interrompus par un pouette-pouette qui fait qu'on fait appel à l'autre comédienne et qui fait que ces trois monologues deviennent des pièces de puzzle, parce que ça s'entrecoupe sans arrêt. Et y a un jeu qui se fait entre le récit de l'une où l'autre suit son récit et ça n'a pas de et les choses n'ont pas de rapport l'une avec l'autre. Et pourtant, il y a, je pense, une troisième chose qui se fabrique.
Trois fleurs, un oiseau, 22 fossoyeurs, un amour,
le raton laveur,
une madame a-t-elle, un citron, un pain, un grand rayon de soleil,
une lame de fond,
un pantalon,
une porte avec son paillasson,
un monsieur décoré de la Légion d'honneur,
le raton laveur,
un sculpteur qui sculpte les Napoléons, la fleur qu'on a. Peine aux soucis,
deux amoureux sur un grand lit,
un carnaval de Nice,
une chaise,
trois dindons,
un ecclésiastique,
un furoncle, une guêpe, un rat flottant,
une douzaine d'huîtres,
une écurie de course,
un fils indigne,
le père dominicain,
trois sauterelles, un strapontin, une fille de joie,
trois ou quatre oncles cypriens,
le raton laveur.
De papa gâteau, trois rossignols de père de sabots, cinq dentistes,
un homme du monde,
une femme du monde,
un gouvernement de cabinet,
deux petits suisses,
un grand pardon,
une vache à sa bavarde,
pâte de bon sang,
un monsieur bien mis, un cerf-volant,
un régime de bananes, une fourmi, une expédition coloniale,
un cordon sanitaire, trois cordons ombilicaux, un chien du commissaire, un jour de gloire,
ma bande à gernière,
un vendredi soir,
une chaisière,
un œuf de poule,
un vieux de la vieille, trois veuves de guerre,
un François Ier de Nicolas II,
trois Henri III,
le raton laveur, un Père Noël,
well.
Deux sœurs latines,
ding.
Trois dimensions,
sion.
Mille et une nuits, sept merveilles du monde, quatre points cardinaux,
un, deux, trois,
quatre heures précises, douze apôtres,
ding, 45 ans de bons et loyaux services, 2 ans de prison, 6 ou 7 péchés capitaux, 3 mousquetaires, 20 000 lieues sous les mers, 32 positions de 1000 ans avant
après chaque repas, 40 minutes d'entracte, une seconde d'inattention, naturellement,
le rat.
La
clin d'œil à un inventaire, celui de Mignana, clin d'œil porté par les frères Jacques avec Pierre-Philippe au piano. Les textes sont de Prévert, la musique de Joseph Kosma. Finalement, à écouter cet inventaire, Edith Skob, on se dit qu'il pourrait aussi traduire le travail d'une comédienne, parce que quand on voit les articles qui vous sont consacrés, finalement, il y a toujours deux mots qui reviennent. Alors, le mot mystère, évidemment, puisque au départ, il y a Franju et une carrière lancée, placée sous les signes de ce que plus tard, on allait appeler finalement cinéma fantastique. Et puis, il y a le fait aussi que vous êtes une actrice libre. Et d'ailleurs, vous le dites souvent, vous pouvez être dans du théâtre même expérimental, avant-gardiste, et apparaître sur une chaîne comme TF1 et jouer dans une série regardée par des millions de personnes. Vous êtes faite de tout ça, c'est-à-dire de l'addition des contraires, presque, vu de loin.
Moi, je crois que c'est... En fait, c'est une chose qui m'amuse beaucoup, beaucoup, c'est de ne pas être dans une catégorie, quoi. C'est de pouvoir casser sans cesse les choses, et puis aussi d'expérimenter. Enfin, parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on se prenne trop au sérieux, les comédiens. On accompagne des projets. C'est magnifique, je trouve, d'accompagner un projet qui touche 7 millions de téléspectateurs, même si le propos a des faiblesses et tout ça. Mais c'est très émouvant de voir comment quelque chose peut accrocher à tant de gens. Et puis d'expérience aussi. Beaucoup plus intime, au fait, pour quelques spectateurs ou des petits groupes. Là aussi, c'est formidable. Oui, j'aime beaucoup passer de l'un à l'autre.
Et vous avez dit que vous vous en foutiez, pour parler crûment, de votre image, de ces histoires d'âge. C'est ça qui vous procure la sérénité, parce qu'il y a un domaine qui n'est pas toujours très tendre, et notamment d'ailleurs avec les femmes, c'est le cinéma, qui parfois se permet, au nom d'une mode, au nom d'une vague, de vous oublier. Et la comédienne doit en permanence chercher d'autres manières d'incarner ce qu'elle joue. Donc c'est ça aussi qui vous a rendu philosophe sur cette idée d'image, parce que c'est paradoxal que vous disiez, bon, l'image, on ne va pas en faire un plat, pour parler encore une fois directement, alors qu'en même temps... Dès qu'on parle de vous, Edith Skob, tout le monde a des images, et des images cinématographiques. C'est presque mythique, donc il y a presque un décalage, finalement, à vous écouter parler d'images.
Oui, ça, alors, je ne me rends pas compte du tout. Je crois qu'il y avait une image que peut-être qui était très forte au tout début. Effectivement, quand j'ai tourné avec Georges Franju, Les yeux sans visage... C'était une image forte, très forte, dont j'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser. J'ai pas voulu me débarrasser de ça parce que c'était magnifique, mais à imposer une présence complètement différente et à exister autrement. Et là, je crois que je suis dans une chose un peu privilégiée parce que, effectivement, je suis vraiment âgée, beaucoup plus âgée. Et j'ai la chance qu'on me propose encore beaucoup de choses et sur des terrains assez rigolos parce qu'il y a des personnages très très différents et ça m'amuse beaucoup. Et bon, alors j'aime pas du tout me regarder, ça c'est autre chose.
C'est autre chose, non, vous
ça je déteste, mais je m'en fiche d'une certaine façon. Enfin, je sais pas, je fais confiance aux gens et puis on peut exister à tous les âges. Hein.
En tout cas, ce qui est intéressant dans tout cet itinéraire, c'est que votre travail d'actrice a été aussi de montrer que vous n'étiez pas que, comme on pouvait le penser au départ, une protagoniste qui interprétait des rôles de victime. Qu'effectivement, il fallait renverser la vapeur et vous approprier vos personnages, vous approprier vos rôles et montrer que vous pouviez renverser l'équilibre.
Oui. Mais ça, c'est vrai que j'étais... Quand j'étais toute jeune, j'étais vraiment assez fragile et je me suis prêtée volontiers à cette image de victime et j'ai eu du mal à me construire autrement.
Et on va écouter dans un instant un extrait des scènes d'enfants de Schumann par Arthur Schnabel. Et bon, c'est un morceau fétiche qui compte dans votre vie. Alors, On pourrait dire évidemment cette esthétique, donc elle l'a choisie, on est sur France Musique. Mais est-ce qu'il a un rôle, une saveur particulière?
Ah oui, une petite saveur particulière, parce que c'est, je crois, une des choses qui me plaisait énormément, énormément quand j'étais petite. Je faisais du piano et j'adorais jouer du piano. Je jouais très mal, je joue toujours très mal. Et je trouve formidable d'avoir travaillé toutes les scènes d'enfants, par exemple, et de voir et d'écouter ce que des gens de talent peuvent en faire. C'est absolument merveilleux.
Un extrait de ces scènes d'enfants de Schumann avec Arthur Schnabel. Et en écoutant ces notes, Edith Skob, vous disiez qu'elle vous inspire un des ingrédients de votre travail de comédienne, c'est-à-dire cette volonté d'incarner les textes et même presque de défier les lois du temps, comme si vous pouviez prolonger perpétuellement un texte. Repousser toujours plus loin la fin, parce que dans ces scènes d'enfants, même dans le court extrait qu'on a entendu, on a l'impression que ça ne se finira jamais.
Oui, et surtout c'est au niveau de... Enfin là, mais c'est pas ce que j'écoute qui est absolument fabuleux, mais je pense au petit artisanat quand moi je travaillais ces choses-là et que j'ai essayé d'en rendre une certaine musicalité. C'est ce travail sans fin quand on est devant une grande œuvre. Et où on a l'impression qu'on n'est jamais qu'on peut toujours aller plus loin, qu'on n'est jamais à la hauteur, qu'il y a toujours des choses à inventer, à trouver, à mettre en valeur, et ça c'est valable pour plein de textes aussi qu'on a interprétés. C'est quelque chose qui est toujours magique et qui est un espèce de travail un peu sans fin, quoi.
Et c'est ce que vous avez ressenti quand vous débutiez avec le Don Juan de Monterland, par exemple? On prend conscience de ces choses-là dès le départ ou il faut du temps? Le fait qu'il y a une recréation permanente et que, comme vous parliez, cette idée de travail sans fin?
Oui, peut-être au moment du Don Juan de Monterland, j'ai pas eu le temps d'avoir conscience de ça, parce que d'abord on a joué peu de fois, j'étais tellement... tout d'un coup catapulté dans une chose énorme, sur une scène de théâtre avec Pierre Brasseur. j'étais dans une espèce de grand chaos. Mais c'est plus tard, c'est aussi quand on joue très longtemps un texte, un beau texte, comment on vit avec ça et comment... Je pense à Tchekhov en particulier, et comment au fur et à mesure à la fois des répétitions et des représentations, on découvre des choses par rapport au personnage, par rapport à l'écriture, par rapport à ce qu'il veut raconter. C'est vraiment un accompagnement sur beaucoup de temps et une connaissance qui se fait et qui est au-delà ou en deçà des mots, quelque chose de très très profond. Il y a une histoire parallèle comme ça qui se fabrique.
Et quand vous travaillez un texte, quand vous l'apprenez, vous êtes de celles qui se réfugient dans un repère secret ou plutôt vous avez besoin de communiquer? Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous travaillez un texte, avec ce que vous nous disiez sur le fait que c'est un travail qui peut être poli, pétri encore pendant longtemps?
Non, il y a d'abord le travail vraiment des gammes, hein, parce qu'il faut pour un texte, il faut le connaître absolument rasoir, il faut pouvoir le dire à toute allure, le dire dans plein de situations différentes. Enfin, c'est vraiment quelque chose comme une gymnastique au départ. Et puis ensuite, il y a cette drôle d'osmose qui se fait avec ce qu'on vit, ce qu'on éprouve, où tout d'un coup, le texte peut vous tomber dessus quand on est en train de faire ses courses au Monoprix ou quand on parle avec quelqu'un, où tout d'un coup, on catapulte des choses et on se dit « Tiens, ça, je peux m'en servir » ou là, ça peut... On fait des mini découvertes comme ça. Je ne sais pas trop quoi vous dire, mais c'est cette espèce de... Oui, il y a ce chemin des répétitions et puis des représentations. Et quand c'est un beau texte, ça continue à vous apporter des choses.
Oui, c'est plus vous qui possédez le texte, c'est presque le texte qui vous possède.
Aussi, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est étonnant parce qu'il y a... avec Claude Régis, par exemple, j'ai fait c'est un travail presque mystique. J'avais un rôle... Je n'avais pas de parole. Hein. C'était un rôle muet. C'était une pièce qui s'appelait Intérieur, de Maeterlinck. Et c'était... Et j'étais en prise avec évidemment tout le texte qui était dit par deux acteurs. Hein. Et il y avait pas mal de personnages qui étaient muets. Et puis il y avait deux acteurs qui disaient le texte. Et c'était comme si le fait d'essayer de s'oublier soi-même, ou pas d'essayer, de s'oublier soi-même pour être dans la chose qui était représentée et dite, vous faisait apparaître beaucoup plus fortement, c'est-à-dire le contraire d'essayer de se mettre en avant, mais comme si une disparition de soi finalement
vous faisait rayonner
et entrer dans une chose beaucoup plus universelle, globale et en fait beaucoup plus forte.
C'est marrant parce qu'en fait, c'est pour ça justement qu'au départ de l'émission, je vous parlais du silence.
Oui.
Parce que quand les gens pensent à vous, et quand on pense à vous, Edith Scobe, on se dit que même si vous ne parlez pas, même en silence, vous communiquez. Alors, est-ce que c'est la magie de votre regard? Je ne sais pas, c'est le mystère. Et c'est justement ce rapport au silence.
Oui.
Ces points de suspension qui, en fait, sont des points d'incarnation.
Thank you.
Au cœur de Chemin rêvant résonnent les notes de Mounir Bachir et son luth magique pour ce morceau Anan. Alors Mounir Bachir, il met en relief Edith Scob ce lien avec le silence.
Je trouve, oui, 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 oui. Il y a ces notes comme ça qui se perdent, et puis qui disparaissent, et puis ça repart ailleurs, on ne sait jamais très bien où, et puis ça, c'est ce que vous disiez, c'est comme une espèce de chose qui hésite, et qui s'arrête, qui part un peu ailleurs. Et...
Vous l'avez découvert comment ?
Oh, je pense que c'est par Jean-Pierre Drouet qu'il aimait beaucoup et qu'il nous l'a fait connaître.
Et quand vous écoutez ce luth, il vous procure aussi l'apaisement ? Il y a beaucoup de tendresse aussi dans sa façon de jouer. Elle est très glissante.
Oui, oui, oui. Il y a, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous relie au monde et qui est... Et qui est à la fois plein de tendresse, d'humour, d'humilité, de beauté, de questionnement. Je trouve ça magnifique.
Alors, dans vos pérégrinations, vos aventures artistiques et musicales, eh bien, il y a, comme on l'a entendu, ce luth, il y a les personnages et les rôles. Est-ce que le fait d'avoir été sur scène Virginia Woolf, a changé quelque chose, parce que vous avez pénétré les mots de cet auteur, de cette femme mystérieuse. Vous-même, vous aviez cette image de mystère. Est-ce qu'elle vous a imprégné au-delà du rôle ? Est-ce qu'elle elle a laissé une trace en vous ?
Ah, je crois vraiment, oui, oui. Parce que j'aimais beaucoup Virginia Woolf. Je pensais que c'était très difficile d'en faire un spectacle, de dire des mots au théâtre ou de... Je pensais que c'était très, très difficile à communiquer. Et puis, on a fait un beau travail avec Anne-Marie Lazzarini de découpage, d'adaptation d'une chambre à soi, qui est un texte très, très beau. Et petit à petit, je me suis laissée embarquer dans ces dérives, dans ces descriptions ou de paysages, ou dans son féminisme. Et le fait de dire ces mots, j'avais vraiment l'impression d'entrer dans sa pensée, de devenir elle. Il y avait quelque chose un petit peu de cet ordre-là qui se passait. Et pour moi, c'est une expérience très, très, très intime et puis très, très importante. Et c'est quelqu'un qui m'accompagne encore beaucoup, beaucoup.
Elle fait partie de vous, c'est dire que aussi, et c'est intéressant de l'évoquer pour cela sans doute, qu'on ne se débarrasse pas comme ça d'un personnage, en tout cas pas tout le temps. Il faut apprendre après à composer avec lui.
J'espère bien que je ne vais pas me débarrasser de ce personnage. Oui, oui. Non, c'est vraiment comme une espèce, une façon de cohabiter avec quelqu'un, d'avoir des liens. D'énormes amitiés ou de choses absolument intimes avec quelqu'un, avec une écriture. Et ça a été très fort pendant une année, puis ça continue à y vivre fortement. J'aimerais bien d'ailleurs reprendre ça.
Elle est toujours présente, Virginia Woolf. Et est-ce qu'il y a aussi des maîtres ou des gens qui vous ont fait aimer ce métier, auxquels vous pensez régulièrement, que vous convoquez régulièrement, qui sont comme des... Oui, on peut dire des compagnons fétiches, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient plus là.
C'est curieux, parce qu'au théâtre, ce sont un peu les auteurs. Hein, parce que ça peut être Virginia Woolf, ça peut être Tchekhov, parce que c'est aussi une sensation et quelque chose de très fort. Oui, c'est un peu les auteurs, Ibsen ou Rilke... et au cinéma, c'est vraiment les metteurs en scène. Je pense à Franju qui était vraiment un visionnaire, quelqu'un qui portait des projets, qui avait une vision de ce qu'il voulait, de ce qu'il proposait un acteur ou une actrice, moi en particulier, en l'occurrence. Et donc une façon de vous pousser à être forcément à la hauteur de ce qu'il a dans la tête, quoi, d'entrer dans l'univers de quelqu'un. Et ça, c'est une sensation que j'ai eue aussi très forte récemment. C'est une chance quand même gigantesque en travaillant avec Léos Carax dans Holy Motors. Et là, j'ai eu aussi cette sensation tellement forte d'être en face de quelqu'un qui était qui ne vit que pour le cinéma, qui est vraiment un visionnaire, et tout d'un coup, être engouffré dans son monde, et il a une vision de vous, et puis il faut y obéir, il faut rentrer dedans, quoi. C'est une façon de... C'est une drôle de chose. Et...
Vous écoutez Chemin rêvant, Olivier Nahum, sur France Musique.
Nous nous sommes permis à Hitchcock de glisser au fil de la nuit cet extrait des Vêpres, l'Ave Maria, selon Rachmaninoff, dans la version d'Accentus et du chœur de chambre Eric Erickson, sous la direction de Laurence Equilbé, parce que, on pourrait se poser la question, Hitchcock, est-ce qu'on échappe? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il reste de cet héritage du fait d'être petite fille d'un général de l'armée russe? Est-ce que ça marque? Est-ce qu'on en garde encore une trace? Alors, les journalistes disent que oui, évidemment, parce qu'ils disent, par exemple, dans Le Point, que vous avez une capacité à décoller les étiquettes tout en sachant garder le cap, puisque votre grand-père général d'armée russe, lui, devait savoir garder le cap. Et puis, évidemment, vous êtes éminemment lié à Tchekhov. En tout cas, on se dit que voilà, c'est des mondes qui cohabitent. Mais alors, vous les ressentez, ces racines russes? Elles sont si prégnantes que ça?
Un petit peu, forcément. Ça doit être en réaction à mon grand-père général que je me suis inscrite au Parti communiste français.
À l'âge de 20 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors, que ce soit pour ou contre, ben oui, quand même. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de mes origines russes, mais Dostoïevski, il y a quand même des choses splendides. Mais une littérature qui me semble très proche, de moi.
Et une faculté à garder un sens de l'humour, même dans des périodes plus ou moins difficiles, ou en tout cas, oui. comme l'humour et la politesse du désespoir, c'est un peu cette...
Absolument, oui. Et puis c'est quand même très fascinant de savoir dans sa famille, on a eu des gens qui avaient des valeurs qu'ils croyaient absolument éternelles. C'était l'aristocratie russe, le général, c'était la datcha, c'était quand même des gens très riches, tout ça. Et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, ils sont obligés de foutre le camp. Mon grand-père est devenu manutentionnaire, il trimballait des caisses de savon, je crois, pour gagner sa vie. Donc tout d'un coup, des vies qui basculent et de savoir que toutes nos valeurs sont tellement précaires, quoi. C'est cette chose-là, peut-être, qui fait que j'ai jamais voulu me sentir appartenir à un club ou à être dans une famille de pensée ou une chose où y rester. J'aime toujours quand j'ai toujours envie d'aller un petit peu à côté, quoi. Ça vient peut-être de là, je sais pas.
Est-ce que le fait d'avoir été en son temps militant du Parti communiste, donc d'avoir cette carte, mais oui. modestement, si j'ose dire. Mais est-ce que quand même, vous croyez que ce sont des souvenirs qui restent présents à la mémoire et qui vous guident quand plus tard, vous jouez justement dans Inventaire, la pièce de Mignana actuellement à l'affiche du Théâtre de Poche de Montparnasse, quand vous jouez votre personnage, cette prolétaire qui a vécu à Bagnolet, somme toute, qui n'avait pas une existence extrêmement luxueuse, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui est maman de 8 enfants, je crois, c'est
absolument,
ça
hein, absolument.
Oui. Voilà, et qui fait avec peu de moyens. Est-ce que vous croyez qu'il y a comme une espèce de conscience ouvrière de laquelle vous vous seriez imprégnée à l'époque, qui transparaît après dans ce rôle?
Je pense que ce personnage, Jacqueline, que joue la pièce de Philippe, c'est une syndicaliste, c'est une femme qui s'est beaucoup battue pour les autres.
Veste de jogging et jeans comme uniforme.
Oui,
donc
c'est ça, qui s'est battue et elle s'est battue pour les femmes. Et toute sa vie, elle a continué aussi à aider les autres. Je me souviens, elle aidait à faire des feuilles d'impôt à tous les gens qui n'arrivaient pas à les faire. Enfin, elle a toujours eu grande conscience des autres et une idée de solidarité. Et c'est une... Je sais pas, c'est très bébé ce que je vais dire, mais quand on entre en particulier, on dit peut-être que tout d'un coup, une justice sociale, qu'on puisse tous être heureux sur Terre, ça peut peut-être exister un jour. Alors, je l'ai un tout petit peu cru quand j'avais 18 ans, puis alors vraiment maintenant plus du tout. Et c'est très triste. Oui.
Un, deux, femme sur deux. Infâme sein Bild sur deux, infâme sein Lage. Turbil sur deux, infâme sein Lage de la Turbil sur deux, infâme sein Lage de qui mort la Turbil sur deux, infâme sein Lage de qui âge four mort la Turbil sur deux. Infâme sein Lage de qui âge les mains tourmort la Turbil sur deux. Infâme sein Lage de qu'âge les cils ciel main tourmort la Turbil sur deux. Infâme sein Lage de qui âge les cils là, si elle me tourmord la Turbil sur deux. Infâme sein Lage de qui âge les cils promont à plat, si elle me tourmord la Turbil sur deux. Infâme sein Lage de qui âge les cils prend mort à plat, ciel main tourment la Turbil sur deux. Infâme sein Lage de qui âge laisse il prend mort à plat, ciel main tourment âge laisse il.
C'est un extrait de Jactation,
voilà,
d'Apergis, avec la voix de Lionel
Peintre, hein, oui.
Et alors, pourquoi, parce que les œuvres d'Apergris sont nombreuses, quelle est la saveur particulière que vous attachez à ces jactations?
J'aime bien, sur celle-là, c'est peut-être pas...
La plus euphorisante, c'est ce que...
oui, la plus euphorisante. Mais il y en a, j'aime beaucoup, parce que quelquefois, ça travaille sur le souffle, ou ça va à la limite de ce qui peut être chanté, ou à la limite de la voix, quoi. Alors que là, celle-ci est assez calme, quoi.
Elle est en adéquation finalement avec ce qu'on disait à l'instant sur ce monde qui apparaît parfois dans sa vérité la plus dure. Oui. Cela dit, quand on évoque Georges Apergris, on évoque aussi cette aventure de l'athème, cette volonté à laquelle vous avez pleinement participé de défendre le théâtre musical. Et qu'est-ce que toute cette expérience vous a appris? C'est le fait peut-être que... on parlait de Jacqueline, votre personnage dans la pièce Inventaire, mais est-ce que c'est le fait de se dire que finalement, même des œuvres extrêmement contemporaines, ou en tout cas pétries de modernité, peuvent être véhiculées auprès d'un public que l'on pourrait qualifier de loin de la culture?
Oui, absolument. C'était ça notre pari. Ça devait être un peu dans la suite de 68, ça, de se dire que des choses extrêmement modernes doivent ou peuvent être communiquées à un public complètement différent. Et on a passé quelques années vraiment très, très belles à Bagnolet, en travaillant aussi avec ou en faisant participer des gens qui avaient des cultures berbères, africaines. Et on a fait des choses où on mélangeait des spectacles, où on mélangeait leur culture... et la nôtre, et donc les choses expérimentales de Georges Apergris. Et c'était très passionnant, parce qu'on a fait tout un travail comme ça, et d'ateliers avec des enfants, des personnes âgées. On s'est beaucoup donné là-dedans. Et puis, c'était très passionnant, mais à un moment, tout ce volet en direction de gens qui n'ont pas notre culture, en fait, si on était là sur place et si on travaillait beaucoup, il se passait quelque chose. Et puis, ça pouvait retomber parce que, après, si on n'était pas là, les gens sont pris ou par la télé ou par d'autres choses qu'ils ont à faire. Et puis on est un peu oublié, quoi.
Et est-ce que le fait de vivre avec un compositeur et un musicien, ça a influé votre travail de comédienne? Bon, il y a eu la complicité au moment du théâtre musical, mais vous croyez que vous avez appris... ou pris des choses sans même le savoir?
Oui, je suis sûre. Le fait de travailler avec des musiciens, parce qu'à l'époque, on travaillait pas mal aussi avec des improvisations, ça m'a rendu plus sensible à des variations ou à jouer avec l'autre, pouvoir improviser. Ça, je le trouve dans mon travail de comédienne, maintenant, qui est très séparé de celui d'Apergris, et puis aussi de pouvoir jouer, même un peu systématiquement, ou avec des rythmes, ou avec des ruptures de ton, ou des choses comme ça, j'ai l'impression que ça vient un petit peu de là.
Alors, on parle de la thème de cette aventure du théâtre musical à Bagnolet, très, très expérimentale aussi, et en même temps, on l'a dit, vous, Edith Skop, vous coagulez différents univers, parce que au moment où nous nous parlons, vous sortez à peine d'un tournage avec Cécile Tellerman, c'est cela?
Oui.
Où vous avez la chance de tenir le rôle de la maman. Maman de qui? Maman d'Emmanuel Béard et de...
Julie Depardieu.
Julie Depardieu. Donc, quand vous... Voilà, vous êtes avec une jeune réalisatrice, épouse d'ailleurs de Jacques Weber dans le film, c'est ça?
Oui, surtout une très, très, très méchante femme. Et je me suis amusée à être méchante. Vraiment une saleté de bonne femme.
Ça vous amuse de jouer les méchantes?
Oui.
Et le film s'appelle comment?
Le film s'appellera Les yeux jaunes du crocodile.
Ah, c'est un titre mystérieux qui vous va bien aussi.
C'est un titre mystérieux, mais d'une femme qui a énormément de succès, qui a écrit pas mal de best-sellers, qui s'appelle Catherine Pancol. Et c'est un livre très, très lu, quoi.
Et le fait d'ailleurs d'être là dans ce rôle de femme très très méchante, c'est aussi d'ailleurs un travail très, très musical, parce que là, du coup, on joue avec toutes les parties du corps, le regard, la voix, les mots. La méchanceté, ça s'incarne à l'écran.
Une bonne femme qui pense qu'au fric.
Ce qui n'est pas vous, donc voilà.
Oui. Et en fait, je me suis bien amusée parce que avec la réalisatrice, on se disait que qu'on pouvait varier un tout petit peu sur des dialogues ou que les choses n'étaient pas absolument... Enfin, c'est pas du Shakespeare qu'on pouvait bouger un tout petit peu les choses. Et la fonction des prises et tout ça, des différentes prises de tournage, je me suis sentie très libre, quoi. De pouvoir me modifier un tout petit peu le texte ou des respirations. Et ça, c'est peut-être la musique qui m'a appris ça.
Nous arrivons à la conclusion de ce chemin rêvant et il fallait convoquer ce soir Edith Cobb, Bob Marley, que l'on vient d'entendre dans Natural Mystic. Alors, a priori, d'ailleurs, on ne présume pas que vous puissiez choisir Bob Marley, puisque évidemment, on se dit, bon, le reggae va-t-il frapper à l'univers de Edith Cobb? Et en même temps, ce n'est pas surprenant parce que il nous semble quand même... à nous tous qui nous intéressons à votre parcours, chère Edith, que vous êtes attirée par l'Afrique, la Jamaïque, par tous ces univers. Donc Bob Marley, il vient comment dans votre vie de mélomane et d'auditrice. Ah, mais
c'est un régal à écouter. C'est des contractions, cette façon d'être accroché à plein de choses, cette grâce, c'est magnifique.
Cette rythmique tranquille.
Oui, oui, oui.
Parce que France Culture avait élaboré une émission qui s'appelait « Les nuits rêvées des discobes ». Et il me semble que dans cette émission, il y avait aussi un opéra du Cameroun qui venait. Donc, je disais que vous aviez sans doute une affinité avec cette Afrique. Et peut-être que c'est les histoires que l'on raconte, le côté griot que vous aimez.
Là, je pense à ce que j'avais choisi là, dans la nuit rêvée. C'était par rapport à José Pivin, oui, qui était un réalisateur de radio. On était très amis, je l'aimais énormément et j'adorais comment il travaillait les sons et cet opéra du Cameroun, c'était magnifique. C'était des paroles, il y avait des paroles de conteur et puis je me souviens c'était un reportage radiophonique sur le Cameroun et à un moment il y avait un énorme arbre que des gens coupaient puis qui tombait. C'est une séquence qui dure, je sais pas, 5-7 minutes et c'était magnifique de voir tout le temps que cet arbre met à s'effondrer et tous les bruits qu'il y a. C'est une chose qui m'avait beaucoup frappée.
Sensible à ce bruit, à cette façon de capter l'univers et les traces finalement du temps qui passe.
Oui,
aussi.
Oui, aussi, oui, oui.
Et quand on a parlé de toutes ces aventures, tous ces mondes, on a parlé effectivement du théâtre musical. Et finalement, on pourrait se demander si vous croyez au hasard. Le hasard, c'est un mot fétiche, parce que quand s'arrête le théâtre musical, le cinéma ne revient pas tout de suite. Donc, on est au début des années 80. Mmh. Et donc, c'est dans ces moments-là, dans le parcours d'une comédienne, on sait que le théâtre restera un allié de toujours. À quoi on pense? On se dit, comme pourrait dire Paul Éluard, que le hasard n'est qu'un rendez-vous et que finalement...
Je sais pas, c'est bizarre comment s'est fait une vie, hein, parce que jamais j'aurais imaginé qu'aujourd'hui je puisse continuer. Enfin, je continue à travailler au théâtre ou au cinéma. Je sais pas, c'est fait de rencontres, de hasard. Puis c'est vrai qu'il y a des moments où, en tout cas par rapport à ce qu'on appelle la profession, entre guillemets, métier d'acteur, il y a des moments un peu de creux, mais il y a beaucoup de choses qui se passent d'autres dans la vie, des enfants, plein de belles choses aussi. Et puis on rebondit à un endroit, on ne sait pas pourquoi.
On n'est pas maître de grand-chose finalement ou un tout petit peu?
Oui, non, je ne sais pas. J'ai l'idée que c'est des rencontres, qu'il y a du hasard qu'il faut arriver à saisir. Hein, je ne sais pas très bien comment ça se tricote, tout ça.
Nous allons nous quitter, non sans rappeler d'abord qu'effectivement, on peut aller vous voir au théâtre de Poche à Montparnasse pour Inventaire, avec vos camarades de jeu, dont ce jeu télévisé, ce marathon de la parole. Saluer également l'équipe qui nous a accompagnés, Françoise Cordé, Anna Cassery, Déborah Dagobert. Et en conclusion ultime, si j'ose dire, est-ce que vous avez des mots fétiches, des mots que vous aimez particulièrement?
Oh, ça me fait peur, ça.
Ça vous fait peur, oui. C'est bien parce qu'on est dans la nuit, comme ça on reste dans le mystère.
Oui.
Donc vous aimez tous les mots?
Non, y a pas du tout. Non, je ne sais pas quoi dire. Peut-être que l'idée d'être libre ou de jamais être là où on croit qu'on est, cette espèce de vague chose qui flotte sans flotter, et c'est peut-être ça qui fait avancer. On ne sait pas trop comment, mais qu'il y a un mélange de choses qui vous appartiennent et puis des choses qui vous entourent, qui vous fabriquent.
Ben voilà, c'est une belle conclusion, cette liberté, ces paradoxes, oui, qui ont présidé à notre conclusion de Chemin Rêvant. Merci d'être venu nous voir, Edith Scott.
Ben merci à vous.
Au revoir.
Merci.